Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 12. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Ça va bien ?
En pleine forme.
Prêt pour cette semaine de folie ?
Ouais.
Parce que là, on a, je pense qu'on a 9, 10, 12, je sais pas combien de films on a.
14,
mais...
14. Willy Warren 2006.
On va parler en tout cas de 5 films dans cette émission-ci. Il y aura peut-être 2-3 commentaires comme d'habitude sur les différents films qui sortent cette semaine. On va parcourir ça en fin d'émission. Mais avant toute chose, je tenais à vous rappeler une chose qui est très importante pour nous, c'est de vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast en fonction de vos appareils électroniques, hein, que vous êtes sur une tablette Android, Apple, on s'en fout, on est partout. Donc vous pouvez vous abonner gratuitement et bien sûr laisser un petit avis, un commentaire, ça fait plaisir, ça nous permet de croître, de grandir.
Un like,
un peu de love, comme on dit. Alors aujourd'hui, on va parler, donc, je l'avais dit, de 5 films. On va tout d'abord parler de Widows. En français, c'est Les Veuves. C'est le nouveau film de Steve McQueen, celui qui avait fait notamment 12 Years a Slave. Donc c'est, autant vous dire, il part en tout cas avec une belle longueur d'avance pour les Oscars. En tout cas, il est un petit favori, un petit chouchou à Hollywood. Est-ce que ce film-ci va l'amener au Panthéon, on verra, on va en discuter. Lola et ses frères, c'est une nouvelle réalisation de Jean-Paul Rouve. Oui, parce que Jean-Paul Rouve n'est pas qu'un acteur. Il réalise quelques films qui sont souvent des films très touchants, très humains et souvent avec un sujet très familial. Donc on va en parler également. On va aussi parler du film Sauver ou Périr, où Pierre Ninet affronte les flammes, hein, en tant que sapeur-pompier jusqu'au jour où un drame... arrive dans sa profession, qui va bouleverser sa vie et l'amener à parler comme ça. Voilà, on va...
Vous m'avez sauvé la vie.
Voilà, comme ça pendant une heure et demie. Donc si vous aimez ça, on va en parler. Capharnaüm, c'est un film qu'on a vu à Cannes, qui est un film libanais, si je me rappelle bien.
Tu te rappelles bien.
Libanais, tout à fait, qui raconte l'histoire d'un enfant qui, en fait, veut faire un procès contre ses parents pour l'avoir mis au monde. C'est tout un programme. Et ensuite, dernier film de la semaine dont on va parler, c'est Robin Hood. Alors vous allez me dire, je connais Robin Hood, Guillaume, il y a déjà eu un truc avec Kevin Costner, il y a déjà eu un truc avec Russell Crowe. Non, c'est autre chose. Taron Egerton et Jamie Foxx sont dans ce film. Donc c'est un Robin Hood un peu New Generation 2.0, jeux vidéo et compagnie, si je ne me trompe pas. On va en parler aussi en toute fin d'émission. Ouais. Le suspense est de mise. Je vois déjà le grand sourire sur la tête de Thibaut qui veut dire que c'est le film de la semaine.
Ou pas.
On commence tout de suite avec le box-office, hein, habituel de l'émission. Bon, sans grande surprise, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald restent numéro 1 en France cette semaine-ci, puisqu'au total, ils ont fait 2,6 millions d'entrées et cette semaine-ci précédente, ils ont fait 1 million d'entrées pratiquement. Donc c'est un résultat tout à fait attendu pour ce genre de film, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus. Un film par contre qui continue d'avoir des bons résultats, c'est Bohemian Rhapsody, qui fonctionne vraiment très bien en France. Tu as deux doigts de ne chanter Mama, mais il n'est pas spécialement... Non. Un film qui a fait presque 500 000 entrées supplémentaires la semaine précédente, pour maintenant avoir un cumul de 2,7 millions d'entrées en France. Excellent score pour un film du coup qui n'est pas américain mais qui est un peu british, qui est un peu entre deux pays, n'est-ce pas? Le Grand Bain, toujours dans le top 3, qui fait près de 300 000 entrées pour cette 3-4e semaine.
J'aimerais savoir combien Gilles Lelouch te paye pour mentionner Le Grand Bain.
C'est dans le box-office, voilà, je m'entends bien avec lui, on était mangé un bout, mais c'est dans le box-office, c'est le troisième, Le Grand Bain.
C'est mérité, hein, cela dit,
c'est mérité,
je chéris Guillaume.
À chaque fois on le dit, hein, c'est mérité.
Mais je pense que ça va être
mais il a eu des,
son
des...
number one de l'année, ou pas loin, non?
Non.
Non, ok.
J'ai vu Jean-Christophe Luini la semaine passée, ça change tout mon classement.
Ouais.
Tu m'as abandonné, Jean-Christophe. Je peux vous jurer.
Tu le fais plutôt bien.
Oui, hein, je sais.
Tu le tiens bien, Winnie. Tu le tiens bien.
Enfin, écoute, c'est mon deuxième métier. quatrième film, c'est Mauvaise Herbe. Donc, c'était le deuxième film de Cairon qui venait de sortir au cinéma, qui a dépassé les 200 000 entrées. Donc, ça aurait pu être meilleur pour le deuxième film de Cairon. Mais ça reste quand même
C'est très bien.
C'est très bien.
Vu
la concurrence.
Le sujet, etc. Ouais, oui, la concurrence, effectivement.
Donc ça reste un très bon score. Pour ce film-là. Et puis cinquième, c'est ton petit chéri, là, un film un peu underrated.
Un bon petit film de genre.
Un bon petit film de genre qui tâche, Overlord, qui a fait 130 000 entrées en France. Donc le film de genre n'est pas mort. Certes, c'est pas lui qui va faire le plus d'entrées, mais en tout cas, il y a encore moyen d'aller profiter de ce genre de film dans les salles obscures.
Oui. Et voilà. Le petit update national que j'aime bien faire depuis quelques semaines maintenant, concernant Girl.
Oui.
Il a passé les 200 000 entrées en Belgique, ce qui est énorme.
C'est beaucoup.
C'est exceptionnel.
C'est beaucoup.
Et il a passé les 350 000 en France, je pense. Donc, et il accumule encore les prix un peu partout. Donc, gros succès pour Girl, amplement mérité, évidemment.
Oui, on va bientôt savoir, en tout cas, c'est peut-être pas la semaine prochaine, mais on va bientôt savoir, en tout cas, la shortlist des Oscars pour le film étranger, comment ça va se profiler.
Je pense que ça arrive tout début janvier, la shortlist. Ah oui, okay, bon, c'est pas je tout sais suite, plus alors. Exactement, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça.
On va tout de suite commencer, parce que comme vous l'avez vu, on a un programme assez chargé, par le premier film de la semaine. Donc c'est la nouvelle réalisation de Steve McQueen, je l'avais dit, le réalisateur derrière 12 Years a Slave, ou encore le film Shame ou Hunger, qui était son premier film. Tous des films, on peut le dire, d'auteur, hein, avec un grand A,
oui,
dans ce cas-ci. Pas toujours le cas, mais c'est vrai que c'est un réalisateur noir, et donc du coup son film précédent, ça parlait du coup de 12 Years a Slave, hein, on voit de quoi ça fait référence. Ici aussi c'est un casting féminin de femmes qui sont également de couleur, mais c'est un film, on a l'impression, en tout cas en voir le synopsis, hein, on va d'abord parler de quoi ça parle tout simplement. Ça a l'air un petit peu plus populaire, un peu plus mainstream par rapport à ses autres films. Il a l'air de changer un tout petit peu de registre pour peut-être... Bah voilà, un peu, ça fait plusieurs fois qu'il fait des films d'auteur, il a peut-être envie d'un peu changer son fusil d'épaule. Et cette fois-ci, il a travaillé en collaboration avec l'auteur Gillian Flynn, qui avait notamment écrit Gone Girl et qui va bientôt être la showrunner d'une série. Je crois que c'est pour HBO. Je ne sais plus le titre, mais concrètement, elle va toujours faire dans le même registre, c'est-à-dire des femmes qui veulent se venger ou des femmes qui sont empreintes à de la violence. Donc, de quoi parle Les Veuves, donc The Widows, ce film de Steve McQueen, Thibaut ?
Alors, en fait, ça se passe à Chicago, et il va y avoir un casse qui va être organisé par une bande de gars qui est menée par Liam Neeson, dans laquelle on retrouve aussi John Bernthal, entre autres. Ce casse va se terminer par l'explosion de la camionnette dans laquelle tous les membres sont.
D'accord.
Et du pognon qui est avec.
Donc Liam Neeson, au bout de 10 minutes... Pff.
Voilà.
Ok.
Donc, il a voulu les retrouver, il a voulu les tuer, mais il est mort. Hein.
Ok, très bien.
Et,
donc, il y a les veuves, je suppose, du coup, dans ce casse-là.
Ben oui, voilà. Ben bien, je vois que tu es d'une perspicacité.
Perspicacité,
tu es
pas chère. C'est Guillaume que je préfère.
Non. D'accord.
On va pas citer de marque.
Oui. Non. Mais donc voilà, les veuves vont se retrouver sur le carreau. Mais il faut d'abord, avant d'aller plus loin à propos des veuves, il faut mentionner une autre histoire parallèle. C'est que c'est la lutte pour la mairie, et deux candidats vont s'affronter. Un qui est incarné par Colin Farrell, et l'autre qui est incarné par Brian Tyree Henry. Le personnage joué par Colin Farrell est issu d'une famille qui est... Il domine la ville depuis un moment, depuis des décennies.
De père en fils.
Exactement. Donc l'autre est l'outsider, et c'est un black qui vient de quartiers...
difficile à Chicago, plus modeste, comme hein. Il y en a, oui.
Et donc voilà, il y a un affrontement politique... Et à côté de ça, il y a ce casse. Alors pourquoi est-ce que les deux histoires sont liées ? Tout simplement parce que l'argent qui a été volé appartient à l'outsider, le black.
Ah.
Et donc il va retrouver une des veuves, la compagne de Liam Neeson, qui est incarnée par Viola Davis, excellente, d'accord, comme d'habitude. Et il va lui réclamer l'argent, forcément. Et donc elle... Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rembourser cet argent ?
Oui.
C'est monter une équipe avec les veuves, donc des anciens camarades de son compagnon, et essayer de trouver une solution à tout cela.
Un Ocean's 8, quoi, entre guillemets.
C'est un peu un Ocean's 8, si on veut, ouais.
Avec un meilleur synopsis, ou en tout cas un pitch de départ un peu plus attractif.
Avec un scénario un peu plus intéressant que Ocean's 8.
Tout à fait. Bon, c'est pas le même registre. Hein. Du coup, ici, je suppose qu'il y a un peu les thèmes phares de Steve McQueen, hein, la situation de personnes, de minorités, tout simplement aux États-Unis, un peu, hein, parce que bon, c'est un réalisateur britannique qui aime bien un peu critiquer l'Amérique, on va dire, dans ses films, en mettant en avant des personnages qui n'ont pas la vie facile ou qui utilisent le système en place. Enfin voilà.
Oui, mais disons que c'est pas tant le contre l'Amérique qu'il a quelque chose, mais plutôt contre contre le pouvoir, contre les dominants. Parce que dans Hunger, il se plaçait d'un point de vue de Bobby Sand, un prisonnier irlandais.
Oui.
Donc c'était par rapport. Enfin, il se mettait contre le gouvernement britannique.
Grève de la faim, tout à fait.
Dans Shame, il faudrait que je le revoie, ça fait un moment que je l'ai plus
vu. Il n'est pas contre le gouvernement.
Il y avait moins cette dimension-là.
C'est plus personnel.
Ouais. Oui, c'était plus personnel. 12 Years a Slave, c'est évident. Voilà. Et ici, effectivement, il y a encore des luttes de pouvoir. Donc, il y a clairement des thématiques chères à Steve McQueen qui sont toujours présentes. Le pouvoir, évidemment, comme je viens de le dire, mais évidemment la mort, le deuil, toutes les questions communautaires, l'appartenance. Donc, il y a vraiment des thématiques qui sont riches, qui sont importantes et qui peuvent être exploitées de façon très intéressante dans un film.
C'est inépuisable, hein, il a plein de trucs à dire avec ça, hein, cette thème-là.
Bien sûr. Et tout ça, il le met dans un film dont l'histoire est très bien ficelée. C'est haletant, on ne s'ennuie pas une seconde. Et puis, c'est super bien joué. Il y a un casting énorme, casting 5 étoiles. Donc, il y a Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, qui n'est pas encore hyper connue, mais on l'a vu dernièrement dans Bad Times at the El Royale.
Est-ce que Michelle Rodriguez est convaincante dans celui-ci? Parce que honnêtement, c'est pas une actrice qui, moi, m'a toujours convaincue. Donc,
oui, franchement, oui.
Okay.
Et je termine rapidement ma petite liste. Il y a Robert Duvall, excellent acteur que j'adore par-dessus tout.
Rien que ça, oui.
John Bernthal, qu'on voit assez peu, on va pas se mentir, vu qu'il meurt assez vite. Daniel Kaluuya, le héros
De Get Out.
Bien vu. Qui a quand même un second rôle assez important ici aussi. Il y a Jackie Weaver, il y a Brian Tyree Henry et Liam Neeson. Quoi. Donc, c'est du lourd.
Clairement.
C'est du très lourd.
Clairement. Mais donc, du coup, ça parle beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de monde. Ça dure 2h10. Bon, ça, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est pas un peu too much? C'est peut-être ça.
Non. Non, mais alors,
est-ce qu'il y a quelque part où ça cloche un peu? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être un peu déçu?
Non, je trouve pas. Je trouve que c'est un film. Effectivement, tu le disais en présentant le film, un peu plus populaire, un peu plus mainstream. C'est clairement le film le plus accessible et le plus facile de Steve McQueen. Mais, comme je le disais, il n'en a pas pour autant délaissé ces thématiques qui lui sont chères. Et donc, il fait un travail assez remarquable au niveau de la mise en scène, au niveau de la dynamique du film, et tout en parlant de choses parfois de manière frontale ou parfois de manière un peu plus dans un sous-texte. De choses importantes, donc non, je trouve pas qu'il y ait de gros points noirs ou de grosses failles à ce film, si ce n'est qu'on peut lui reprocher qu'il est peut-être un peu plus facile, oui, mais
une fois
il est bien foutu.
Une fois qu'il passe dans le Ocean's 8, est-ce qu'on enlève un peu l'élément de surprise? Est-ce que ça se déroule un peu comme on
non,
le pense?
Non, parce qu'il y a quand même encore quelques rebondissements assez sympathiques. Parfois on se dit, bon, tu sais que le plan va pas se dérouler correctement. Peu importe à quel moment du film, hein, mais il y a toujours un moment où ça capote quelque part. Et malgré ça, je trouve qu'il propose des pistes qui sont assez intéressantes. Et parfois, il conclut certains arcs narratifs aussi de manière parfois surprenante. Donc non, je trouve que c'est assez équilibré et c'est très bien.
Et enfin, dernière question, est-ce que tu as reconnu la patte d'écriture de l'auteur de Gone Girl dans ce cas-ci ou pas vraiment?
Oui, alors je n'ai pas fait attention que c'était elle qui était derrière, mais je pense que tu l'as bien présenté aussi toi-même.
Non, mais est-ce que du coup, tu as ce côté un petit
peu
twist, voilà, c'est ça.
Il y a tout ça.
De la violence.
Il y en a.
Okay.
Il y en a,
à savoir, du coup.
Et il y a vraiment une super équipe de femmes. Franchement, le quatuor formé par Viola Davis, Michelle Rodriguez, pardon, Elizabeth Debicki et Cynthia Erivo, il est canon. Donc, il y a deux blacks, une latina et une belle grande blonde aux yeux bleus. C'est on ne peut plus éclectique. Et franchement, ça fonctionne super bien parce que forcément, il utilise les backgrounds et les l'historique, les caractéristiques de chaque population. Et ça donne un ensemble vraiment super bon. Donc, non, il y a niveau de l'écriture, du développement des personnages, de leur passé, de ce qu'ils ont à apporter, etc. Et c'est vraiment très très bien écrit. Donc, alors je sais pas si c'est plus dû à Gillian Flynn ou à Steve McQueen, oui, peu importe, mais ils ont fait vraiment de l'excellent travail à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment du très très bon. Steve McQueen, j'aime pas Hunger, j'aime vraiment pas Hunger, j'ai beaucoup de mal avec. J'adore Shame, j'ai adoré 12 Years a Slave. Et franchement, j'aime beaucoup Widows.
Non, il a clairement une carrière qui ne fait que...
Il est, voilà, pour moi, c'est un des réalisateurs les plus...
attendus aujourd'hui.
Oui, clairement, les plus attendus. Et je trouve un des plus intéressants. Parce que même si j'aime pas Hunger, clairement, au niveau de la mise en scène, au niveau de l'écriture, y a déjà toutes les qualités qu'on retrouve dans tous ses films suivants. Donc, Steve McQueen, c'est vraiment un excellent réalisateur. Et je trouve que malgré le fait qu'il ait un homonyme plus connu que lui, il parvient hyper bien
à faire sa place.
Et il ne le doit qu'à lui-même.
Donc, si on résume bien, Les Veuves, c'est un film de braquage avec des éléments d'auteur, avec une plongée dans la vie de ces personnages-là et aussi de leurs problèmes et de ce qu'ils représentent en tant que parfois minorité dans l'Amérique. La touche Steve McQueen, quoi, dans un film un peu plus accessible. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note ?
Bien, j'ai réfléchi. 3 étoiles d'office, ça pourrait être plus, mais je ne suis pas sûr que je mettrais plus. Parce que j'adore Shame et 12 Years a Slave, ça pourrait être 4, peut-être 5 étoiles. Je ne suis pas sûr que Widows...
va marquer les esprits 4. À long terme, quoi.
Voilà. Tu vois. Je pense pas qu'il marquera autant que les précédents, mais c'est quand même un excellent film. Donc c'est un 3, je vais dire 3 étoiles, mais 3 étoiles plus avec
3 étoiles avec
un facteur avec le cachet approuvé,
le cachet cinécast. On est bien d'accord. Ensuite, on va parler maintenant pour la première news après le box-office. C'est presque du box-office, on n'y est pas encore, hein, mais l'année 2019 de Disney. Il faut savoir une chose, hein, je vais vous raconter une histoire, les amis, sur Disney. C'est que Disney,
ces
trois dernières années, donc il faut savoir qu'en 2016, ils ont fait 7,6 milliards de dollars de revenus. Donc ça, c'est en 2016. C'est le record mondial. Il n'y a jamais eu plus pour un studio. Ensuite, en 2017, ils ont fait 6 458 000 millions, pardon. Et en 2018, maintenant, du coup, ils ont dépassé le résultat de 2017. Donc 6 468 millions. Donc, bon, vous me dites, c'est pas super important, c'est chouette, tant mieux pour eux, ils ont beaucoup d'argent. Mais bon, il faut savoir qu'en 2016, il y avait Star Wars qui était revenu, etc. Donc c'était vraiment une grosse, grosse année pour Disney.
En 2018 aussi, quand même. Il y a eu Solo.
2018, oui.
Oui, ben, t'es gentil. Certes.
Il y a eu Solo, oui, bon, il y a eu Jean-Christophe et Willy, surtout. Mais
cette année, ils ont encore un film qui sort.
Ils ont encore Mary Poppins. Donc, ils vont faire une belle, belle année. Je ne pense pas qu'ils vont atteindre le résultat de 2016, mais l'année prochaine, amis.
Je ne pense pas qu'ils feront un milliard avec Mary Poppins.
Non, l'année 2010, non, enfin, surtout qu'il sort juste avant la fin de l'année, donc c'est un peu tard. Mais l'année 2019 de Disney, pour les. Si je me rappelle bien, c'était les 90 ans de Disney ? Ou les 60
non. Ce sont les 90 ans, les 90 ans de Disney.
90 ans de Disney année, pour le public français. Ouais. Oui, donc du coup, l'année prochaine, ils ont dit, bon, on va être le paquet, on arrête de déconner ici. On fait un petit listing des sorties Disney en 2019, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Le 6 mars 2019, ça c'est en France, hein, toujours, je rappelle, on parle des sorties françaises. Captain Marvel.
Projet intéressant qui m'excite assez bien.
Donc, boum, quoi, directement, un gros film Marvel chapeauté par Disney, forcément. Un peu plus tard, 3 semaines plus tard, hein, Dumbo de Tim Burton, tu vois, rien que ça.
Je n'en ai strictement rien à foutre.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah, mais Tim Burton m'intéresse de manière générale.
Je vais te dire ça pour au moins 3-4 autres films qui vont sortir. C'est que toute cette manie de refaire Disney, un film, de remaker.
Oui, je suis d'accord.
Tous ces films d'animation, c'est no way.
Bah, c'est pas ça, c'est que c'est pas très... Voilà, c'est très attendu.
Après, bon, c'est Tim Burton. Déjà, en plus, c'est un réel qui m'excite pas plus que ça non plus.
Attention.
Je suis pas très Tim Burton.
Moi, je pourrais faire une spéciale Tim Burton. Ah, j'adore.
Non, mais alors, j'aime bien ce qu'il fait, c'est pas ça, mais il y a un moment, voilà. Quoi.
Disons que quand il chapeaute des films un peu mainstream.
Quand il fait Alice au Pays des Merveilles.
Voilà. C'est pas là où il est fort. Voilà. Clairement, c'est quand il fait L'étrange de Monsieur Jack ou des trucs comme ça, ou Sleepy Hollow. Là, il a vraiment une touche.
Ses derniers bons films, c'était quoi? Moi, je trouve que son dernier grand film, c'était. Big Fish, quoi.
Oui, clairement. Oui.
C'était il y a 15 ans.
Ouais.
Depuis.
Il s'est un peu transformé en Yes Man, qu'on se met d'accord.
Bah,
Peu beaucoup.
Beaucoup.
Mais écoute, tout le monde a une retraite à préparer, hein, je veux dire.
C'est vrai.
Troisième film.
C'est peut-être son divorce avec Helena Bonham Carter.
C'est possible aussi. Hein. Et maintenant son expo qui fait le tour du monde. Donc en mars, on avait dit Captain Marvel Dumbo. Ensuite à ça, il y a Penguins, un film Disney Nature. Voilà, c'est très important.
Mais c'est un beau label, Disney Nature.
Bah oui, voilà.
Des docus intéressants.
Ça marche
avec
toujours bien.
Et des équipes assez. Enfin, des grosses équipes de films de documentaires animaliers. Donc, je suis assez curieux.
Suite à cela, 1er mai, bon, rien que ça, c'est Avengers 4.
Enfin, on l'attendait.
Voilà, lui, il fait mal aux dents. Un peu plus tard, 3 semaines plus tard, en mai, toujours Aladdin de Guy Ritchie. Bon, Guy Ritchie,
non, vraiment,
depuis le roi Arthur.
Désolé.
Et d'ailleurs, apparemment, Disney ne veut pas montrer une bande-annonce de ce film pour l'instant parce que je crois qu'ils sont en train de sentir le gros bide. Donc, ils ont un peu peur d'Aladdin.
Tu sais que dans le roi Arthur, ce que je craignais par-dessus tout, c'était le style Guy Ritchie. Que j'aime bien quand il fait ses films de braquage, ses films de gangsters. C'est ce qui cartonne. Et ben dans Le Roi Arthur, c'est la petite séquence purement Guy Ritchie qui fonctionnait le mieux dans le film.
Oui,
le
ça. Reste yes, était no, yes,
daube,
no,
c'est pas possible.
Oui, c'est
donc,
vrai.
À mon avis, il va le refaire dans Aladdin. Mais...
Déjà, Aladdin, Guy Ritchie, c'est pas le mélange du tout. John Favreau, oui, bon, il le fait déjà tous les trucs de Disney, John Favreau, mais c'est déjà plus un humoriste. Wow, ok.
Ouais, non, je...
super.
Circonspect.
Ou alors tu mets Jim Carrey dans le rôle du génie. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un gros bazar.
C'est Will Smith qui fait le
génie.
Ouais,
c'est Will Smith. Ouais. Oh, j'aurais testé un Jim Carrey. Tu vois, over the top, tu essayes un truc un peu sympa. Le 26 juin, on a Toy Story 4. Donc on enchaîne, hein, je veux dire.
Bah là, bien sûr que j'ai envie de le voir.
Ouais, mais attention, c'est pas la même équipe derrière exactement, donc c'est un peu...
C'est vrai. Et le 3 était tellement bien.
Ouais, c'est dur. Hein.
Oh là là.
Tu dis, la trilogie est parfaite.
Toy Story 3, c'est un chef-d'œuvre.
La trilogie est parfaite, s'ils font un 4 et que c'est de la merde, c'est quand même vraiment dommage.
Ouais.
17 juillet, tout le monde en a parlé cette semaine, parce que la bande-annonce est sortie vendredi passé. Le Roi Lion de Jon Favreau.
Je n'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu que de nouveau, alors, ils avaient fait un truc image par image. Comme
la bande-annonce, c'est plan par plan le dessin animé, qu'on se met d'accord. Hein.
Donc... Je comprends même pas pourquoi ils font des bandes annonces comme ça. Ça sert à quoi de comparer? Autant faire un truc qui n'a rien à voir.
Nous avons fait un sondage, rappelle-toi, sur notre Twitter cette semaine pour demander aux gens s'ils allaient acheter un ticket ou pas pour Le Roi Lion en voyant la bande annonce.
Oui, je pense que les gens ont envie.
90% des gens disaient oui. Hein, donc c'était clair que c'était intéressant pour eux.
C'était un des meilleurs Disney des années 90, faut le dire. Enfin, même si dans. Non, alors en même temps, les années 90, c'était du lourd. Hein.
Je crois qu'on pourrait faire une émission spéciale Disney.
Il y a eu Aladdin, il y a eu.
On pourrait faire une émission spéciale animation Disney parce que je pense que Le Roi Lion pourrait être le top du top en film d'animation Disney quand même.
C'est vrai.
À Timon et Pumba et tout. Non, c'est très très haut. Alors, le 9 août, il y a Artemis Fowl. Alors, je t'avoue que je ne sais pas de quoi ça parle, de Kenneth Branagh.
Alors, j'ai lu au moins un bouquin, peut-être deux, mais j'en ai aucun souvenir.
Ok, bah
j'aimais bien.
Ça me dit pas.
Tout ce que...
Voilà.
Intervention très utile.
Ça présage des choses formidables.
Alors, mais en fait, c'est une saga littéraire pour ados. D'ailleurs, on a dû le dire dans les news un moment quand on a appris que le projet était sorti. Mais c'est une saga littéraire pour adolescents, voire pour jeunes. Et donc, pourquoi pas Kenneth Branagh. Voilà, on verra.
Le 4 octobre, il y a un film inconnu avec des prises de vue réelles. Donc, prises de vue réelles, c'est par exemple Jean-Christophe et Winnie, par exemple. Le 8 novembre, il y a un conte de fées Disney inconnu en prise de vue réelle, donc c'est-à-dire un classique Disney qui va être en prise de vue réelle. On a Mary Poppins cette année. Qu'est-ce que ça va être là, genre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Ils ont déjà fait tellement de trucs en prise de vue réelle.
Je ne sais pas. Il y en a encore. Hein. Peut-être qu'ils vont faire La Petite Sirène un jour. Hein.
Bernard et Bianca, c'est pas eux, si? Oh, tu t'imagines.
Si, c'est Disney, Bernard et Bianca.
Roxy Rookie.
Roxy Rookie, j'adorerais Roxy Rookie.
En prise de vue réelle.
Ouais, non, là, on va déconner.
Okay.
En même temps, quand tu vois qu'ils font le Roi Lion, voilà.
Est-ce que c'est des prises de vue réelles, ça? Non.
Bah, je pense que pour eux, le Roi Lion qui va sortir cette année, ils l'appellent prise de vue réelle.
Genre Casse-Noisette, Casse-Noisette, c'est un prise de vue réelle.
Ouais, bien sûr.
Ok, bah Anastasia, par exemple, ce serait un prise de vue réelle, par exemple.
Ah oui, ah, ils font Anastasia aussi.
Je sais pas, mais ça pourrait être ça.
Ouais. C'était Disney, Anastasia ?
Oui.
Ah, putain.
Le 27 novembre.
C'était bien,
Anastasia. Attention, mais oui, c'était bien. Le 27 novembre, ça, c'est la sortie USA. Alors là, les amis.
Let it go.
Non, j'ai vraiment pas hâte que tu sortes. Oh non, non. Ce sera le truc, le film, il y aura ça chez Burger King, il y aura ça partout. La Reine des Neiges 2, préparez-vous à acheter des sacs à dos pour vos enfants. Les... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est les mêmes réalisateurs que le premier, toi qui sais peut-être ou pas?
Je pense que oui.
Chris Buck et Jennifer Lee.
Jennifer Lee,
il me semble
que c'est... Je pense bien.
Et puis le 20 décembre, on termine l'année sur un petit film un peu... un film d'auteur, hein, vraiment, c'est le Star Wars épisode 9 de J.J. Abrams. Voilà, vous avez compris, l'année 2019 de Disney, c'est du très, 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 très
honnêtement, bon. Je pense qu'avec ce line-up-là, il y a clairement le potentiel pour dépasser leur record de 2016.
Bah oui, oui, c'est ce que j'ai, là, pour ça qu'on en parle.
Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, t'as dit les films, là, je pense que oui.
Là, il y a vraiment moyen qu'ils fassent quelque chose.
Parce qu'ils, clairement, avec Dumbo, Aladdin et le Roi Lion, ils surfent à fond sur la nostalgie de tous ceux qui ont grandi avec les films d'animation. Ça veut dire les jeunes adultes de maintenant, oui. Tous ceux qui ont entre 20, voire un peu moins, et 30, 35.
T'oublies toute la génération de personnes, genre, par exemple mon grand frère, etc., ont des enfants de 5, 6, 7 ans et qui peuvent emmener voir ce genre de films.
Bien sûr, et qui les ont vus en cassette ou au cinéma à l'époque. Bien sûr. La Reine des Neiges 2, c'est clairement pour le jeune public de maintenant.
Oui.
Captain Marvel et Avengers, là, bah, c'est évident. Toy Story 4 aussi, grosse nostalgie sur une tranche d'âge un peu plus âgée aussi, hein, comme, enfin, un peu la même tranche d'âge que Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion.
Oui, bah oui.
Pareil pour Artemis Fowl, hein, donc.
Ça, je sais pas, peut-être que c'est nouveau. Ça, peut-être que c'est un truc un peu nouveau.
Bien sûr, mais c'était quand même une grosse saga littéraire.
Bah, c'est leur nouvelle licence, quoi. Du lot, hein. C'est clairement leur nouvelle licence. Donc,
Bah oui, puisque le reste, c'est que des suites, à part Captain Marvel. C'est dans une franchise, mais c'est le seul truc neuf, en fait, avec Artemis Fowl. Et peut-être les deux films inconnus, on ne sait pas encore. Mais...
Donc voilà.
Grosse année Disney.
Il y a du boulot chez Disney en 2019, ça c'est sûr. On a hâte de vous parler de tout ça.
Du pognon.
Ils ne savent plus quoi en faire.
Avengers 4. Il va passer le milliard. Il va peut-être arriver pas loin des deux.
Bah déjà, le Avengers précédent, c'est deux, non?
Pas loin, je sais pas exactement.
J'ai l'impression que c'est deux.
Star Wars, il passe le milliard. Oui. Donc avec deux
films...
Et vu
que c'est GG, en général, les gens préfèrent quand même.
En plus, c'est GG. Avec deux films, ils vont te passer les 3 milliards ou presque.
Ouais.
Et puis t'as... Enfin bon, ouais, ils vont d'office dépasser les 7,6 milliards de 2016. Attends. Ça me semble évident.
Avengers Infinity War, voilà ça que je voulais vérifier quand même.
Box Office Mojo.
Exactement. Bah, 2,46 milliards.
46 millions, voilà.
On se rapproche d'Avatar.
Donc clairement, en deux films, ils vont passer les 3 milliards, peut-être plus. Peut-être que Star Wars 9 fera plus qu'un milliard. Je pense que c'est pas impossible.
Mais pas entre le 20 décembre et le 1er janvier. Impossible.
Non, peut-être pas.
Donc voilà, s'il avait sorti en 6 décembre, par exemple, là, c'est jouable.
Ouais.
Mais 20 décembre, c'est quand même tard. Mais bon.
Ouais, mais après, tout le box-office qu'il fait est comptabilisé par rapport à son année de sortie, non ?
Non. C'est semaine par semaine jusqu'à ce que tu changes d'année. Donc du coup, peut-être que l'année suivante, il va enfin ça. Bref, vous avez compris le délire. Ça va bien pour Disney, il n'y a pas de problème. Si vous voulez acheter des actions, vous savez où mettre votre argent. On va parler d'un film, alors rien à voir, hein, on change de registre, et c'est tant mieux. Hein, on a parlé beaucoup de business là. Lola et ses frères. Alors c'est quoi Lola et ses frères ? C'est un film qu'on a vu au Festival international du film francophone de Namur. Et c'est un film, les amis... qui est le label Guillaume, j'aime beaucoup ce film. Voilà, je commence comme ça.
On est dans du cinéma français déjà.
C'est tu tout à fait ce que j'aime. Donc, ces films de famille, un peu drame-comédie, réalisé par Jean-Paul Rouve. J'avais pas dit dramédie, je ne l'ai pas dit.
Merci.
Réalisé par Jean-Paul Rouve avec Ludivine Saigné, José Garcia, Jean-Paul Rouve, entre autres. Hein. Et ça raconte quoi ? C'est l'histoire de.
Et Ramzy quand même, faut dire Ramzy.
Et Ramzy Bedia,
oui.
Qui a un rôle tertiaire quand même. Faut le dire. Il n'est pas là beaucoup.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a un second rôle.
Un second rôle, ok. Donc Lola, elle a deux frères. Elle a un frère qui s'appelle Benoît, qui se marie pour la troisième fois. Et Pierre, qui est un homme un peu dépassé par son travail et qui débarque toujours en retard, qui s'excuse, qui est jamais là. Et très concrètement, bah, entre les trois, c'est un peu la fratrie. On parle pas beaucoup, enfin, on essaie de parler un peu de temps en temps, surtout quand on se rejoint devant la tombe des parents, mais très concrètement, c'est pas la grosse communication. Et surtout, la communication n'est pas 100% honnête. Parfois, ils sont pas sur la même longueur d'onde et, parce qu'ils se disent pas la vérité, tout simplement.
C'est pas beau.
Voilà, et donc il y a des trucs un peu qui se passent. Benoît va devenir père sans spécialement être prêt à ça. Y a Lola qui va rencontrer justement le personnage de Ramzy qui s'appelle Zoher quand elle s'occupe de son divorce, justement de ce personnage-là. Et Pierre, il y a des problèmes professionnels, j'en parlais, donc sa vie pro prend le dessus. Et donc tous les éloignent un petit peu. Par leur chemin, mais en tant que frères et sœurs, ils vont un peu s'entraider dans ces difficultés-là de la vie et ils vont trouver une entente dans la difficulté. Je crois que j'ai bien résumé le film.
Oui.
C'est un peu ça l'idée. Donc c'est un film, bon, vous l'avez compris, c'est très simple. On est sans spécialement pour autant tomber dans le cliché. C'est pas un truc à l'eau de rose, on n'est pas en train de dire « Lola a des problèmes, ses frères vont l'aider », tu vois, c'est pas ça le but du film. Le but, c'est vraiment de faire un petit portrait simple, sans trop de prétention, de frères et sœurs qui ont des problèmes, tout simplement, et qu'on va essayer de résoudre ensemble tout au long du film, sans spécialement avoir envie de transformer le film en film de super-héros ou en film de hyper rigolade autour d'un concept high concept. On est dans quelque chose de très simple, de très authentique et du coup de très sensible que Jean-Paul Rouve nous montre. En tout cas, moi, c'est mon impression du film et c'est pour ça que j'aime beaucoup.
Tu ferais presque pleurer rien qu'à...
Tu m'as oublié.
À parler.
Ça m'a tué, hein, je vous jure. Jean-Christophe et Winnie, quand il y a Winnie l'ourson qui dit ça.
Tu l'as un peu moins bien fait, vas-y refais.
Non.
Vas-y refais Winnie.
Non, je vais faire Winnie. Tu m'as oublié.
C'était un peu moins bien que tout à l'heure, mais c'était bien.
Ça m'en met ?
Ouais, ça va, ça va.
Ok. Donc, très concrètement, oui, bah, c'est simple, c'est sans prétention, mais c'est vraiment un film qui est... pour moi, alors, efficace.
Non, sans prétention.
Tu trouves ?
J'aime pas trop cette expression, même si j'ai tendance à l'utiliser aussi. Justement, je trouve qu'il y a de l'ambition dans ce film.
Ouais, prétention, ambition, c'est pas la même chose.
Non, bien sûr, mais quand on dit sans prétention, c'est... Bon, voilà, quoi. C'est vite fait, bien fait.
Non, pour moi, excusez-moi, alors c'est pas ça que je voulais dire. Quand je dis sans prétention, je pense en fait aux clichés parisiano des films comédies dramatiques qu'on pourrait avoir de temps en temps.
Mmh.
Là, c'est un film de province, on est dans une famille qui a l'air très authentique, et donc ça se détache un peu de la facilité qu'il pourrait y avoir dans ce genre de film. Voilà ça que je veux dire. Okay. On évite un peu le côté plan-plan, quoi.
Ouais. Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, par rapport au côté ambitieux que je mentionnais, je trouve que ça l'est, parce que ça... Il place et il parle d'une famille. Il a dû écrire toute une structure familiale, mettre tout ça en place et faire en sorte que ça fonctionne entre chaque personnage. Parce qu'effectivement, c'est une fratrie, mais ils ont chacun leur propre trajectoire. Et les moments où ils se réunissent pilotent un peu tout ça. Ce sont des moments charnières quand même, les réunions... devant la tombe des parents, tous les quoi. Premier jeudi du mois, je crois, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très très bien écrit. Et ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est les comédiens. J'avais pas vu José Garcia aussi bon depuis assez longtemps.
Ça, c'est vrai.
Je le trouve vraiment très touchant. Il joue un rôle de père un peu désabusé, parce qu'il élève seul son fils... Alors le fils c'est un peu un cliché, c'est un peu un bobo parisien qui lit Kundera, oui. Et qui va aller, c'est à quel unif qu'il va en Angleterre, je sais plus dans quel gros unif, enfin
Canterbury, on sait.
Il est peut-être bien à Cambridge, enfin voilà.
Mais très concrètement, oui, bon, ça c'est clair. Par contre,
c'est un petit cliché. Mais pour terminer sur Garcia, avant que t'embrayes, si je puis me permettre, il est vraiment très très touchant. Et je trouve qu'il va dans des directions dans lesquelles on l'a peu vu ou pas vu auparavant. Mmh. Donc vraiment, José Garcia, très très bien. Mais c'est pas le seul, hein. Les autres sont très très bien aussi.
Oui, mais je pense que c'est ça aussi l'élément de surprise du film, c'est que José Garcia joue un peu à contre-pied par rapport à ce qu'il nous a proposé récemment. C'est vrai qu'il a cette C'est un atout, mais c'est à la fois un défaut en tant qu'acteur d'être un peu over the top dans ses films.
Mmh.
Et là, il est très, on va dire, il est vraiment dans le ressenti. Donc, on voit vraiment ce père qui ne communique pas bien avec sa famille, qui est extrêmement sous pression au travail et qui, en fait, est complètement dans son délire et qui n'admet pas qu'il y a un problème, quoi. Et donc, il va craquer, tout simplement. Et d'un côté, on a Lola qui est sans doute celle qui s'en tire le mieux, entre guillemets, des trois.
Oui.
Puisque voilà, elle fait sa vie, elle a rencontré un homme et tout. Et les deux autres, c'est un peu des... Quand tu les vois, ils ont des gros problèmes, quoi.
Ben, les trois traversent une crise existentielle. Tous les trois, vraiment. Et c'est... Ce qui fait leur force, c'est que... Ben, même si parfois, ils se disent pas tout, ils comprennent. Ils anticipent, parfois. Et ils essayent de bousculer un peu les autres pour qu'ils sortent eux-mêmes un peu de leur tanière et qu'ils se dévoilent un peu plus. Donc, je trouve que ça, c'est très réussi au niveau de l'écriture.
Mais comme tu le disais, c'est ça pour moi qui est le vrai argument de Lola et ses frères, c'est que c'est un film qui réussit à faire les interactions entre frères et sœurs telles qu'ils sont dans une vraie famille, où parfois ta sœur va être bienveillante envers toi, mais... tout en te disant une méchanceté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment des trucs très subtils que seule une vraie fratrie peut connaître. Tu sais, le genre, on veut te dire quelque chose, mais on ne va pas te le dire comme ça parce qu'on te connaît avec tes susceptibilités. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On te connaît dans ta dimension. Donc, c'est très bien foutu de la part de Jean-Paul Rouve. Et bon, je ne le connaissais pas bien en tant que réalisateur au moment où j'ai vu le film. J'ai un peu rattrapé sa filmo entre-temps. Il y avait notamment Les Souvenirs, etc.
Très beau.
Des très bons films, vraiment. Souvent dans le même registre, hein, familial, situation, drame, comédie.
Il y a deux Jean-Paul Rouve, quoi. Il y a celui qui joue dans Les Tuches.
Mais c'est aussi un film de famille, Les Tuches, honnêtement.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, t'as le gars qui joue dans des comédies, ou voire des comédies dramatiques, et qui a des personnages plus ou moins subtils, mais il joue souvent des mecs un peu lourds. Photographe dans le mariage dans le dernier film des réalisateurs d'Intouchables, c'est un mec aussi un peu lourd. Celui des
Le Tuches, sens de la fête.
Voilà. Et il y a le Jean-Paul Rouve, réalisateur, qui a rien à voir, quoi.
Et du coup, Jean-Paul Rouve le disait, s'il fait Les Tuches, bon, à un côté, il aime bien le personnage de Jeff Tuche. Je peux comprendre, ça doit être marrant à jouer, parce que tu peux faire un peu ce que tu veux, t'es un peu libre.
Et puis, c'est un personnage qui reprend plusieurs fois aussi, donc...
Voilà. Et ça lui permet de financer des films comme ça. Puisque je tiens à rappeler que TF1 fait Les Tuches et TF1 produit Lola et ses frères également.
Il est dans le schéma à la Michael Bay.
Exactement. Un pour toi. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, si c'est pour faire ça, bah écoute, continue à faire Les Tuches. Moi, ça ne me dérange pas parce que si tu fais à chaque fois un petit film comme ça qui est très touchant et qui a sa place tout à fait dans le cinéma français, bah why not ? Donc moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi, je lui donnerais...
YOLO, hein.
Ah, non, 2, 3, je suis 2.
Ah ouais.
C'est un bon film, il n'y a rien à faire. Mais c'est, voilà, des films... Les Souvenirs méritent un 3 étoiles, voilà. Si tu vois, je dois comparer les deux. Clairement, je pense que Les Souvenirs est un petit peu au-dessus, tout petit peu au-dessus. Possible. Mais 3 étoiles, ce ne serait pas démérité. Honnêtement, quelqu'un donne 3 étoiles, je dis, ouais, je comprends tout à fait.
Eh bien, moi, je lui donne 3 étoiles.
Ben voilà, on va...
Tu comprends tout à fait.
On va vers le haut. 3 étoiles, alors, dans ce cas-ci, pas de souci. Très bien. 3 étoiles pour Lola et ses frères. On commence bien cette semaine, hein. Donc on a Les Veuves, 3 étoiles. Lola et ses frères, 3 étoiles, n'est-ce pas ? Avant qu'on parle du troisième film, une petite news à propos de ce même film. Nous allons parler de Robin des Bois. Robin Hood, le film Lionsgate, le retour de la franchise pour la énième fois. En fait, qu'est-ce qui se passe avec la franchise ? Ils ont besoin de faire des films pour les droits ou c'est un peu comme les films Spider-Man. Si Sony arrête de faire des films Spider-Man, ils n'ont plus les droits.
C'est une excellente question.
À mon avis, il y a un problème. Donc, il...
Je ne sais pas s'il y a un problème avec Robin des Bois. Je ne pense pas qu'il y ait un problème.
En tout cas, ils ne cessent de relancer.
Voilà. Ouais, mais c'était pas Lionsgate qui a fait les films précédents. Je pense que quelqu'un s'est dit, voilà, j'ai envie de faire un truc Robin des Bois. Voilà, ils lui ont acheté les droits et c'est bon.
Donc voilà, le film a coûté 100 millions à produire, donc. En général, on fait le même montant pour le budget marketing, donc c'est 100 millions également.
Pour les gros films, ouais.
Oui, en général.
On va dire qu'il a coûté 200 millions. Plus
200 millions de coûts.
Un petit peu moins.
Et la première semaine d'exploitation aux États-Unis, il a rapporté 14 millions. Donc autant vous dire que c'est drôle, mais en même temps, c'est pas drôle, parce que je pense honnêtement qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi dans les prochaines semaines.
C'est pas plus mal, hein.
Très certainement. Chez Lionsgate, il y aura un gros problème. Donc... Il y a un énorme problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Alors pourquoi ? Bah, déjà, première chose, est-ce qu'on a envie d'aller voir un film Robin des Bois ? Que quelqu'un lève la main dans cette pièce, il n'y a personne.
Est-ce que quelqu'un a eu envie de voir ce Robin des Bois après avoir vu les premières images ?
Non.
Ou la bande-annonce.
Non.
Encore moins de personnes, à mon avis.
Non. Donc, c'est honnêtement, je ne comprends pas la décision d'avoir fait ce film, tout simplement. Mais on va en parler, parce que la bande-annonce avait tout négatif. On n'avait pas envie de voir le film. Maintenant, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, parce que tu as eu la chance de voir ce film récemment. C'est Robin des Bois, Robin Hood, avec Taron Egerton, donc Monsieur Kingsman, hein, Jamie Foxx et Jamie Dornan, qui n'en peut plus d'être dans des films d'ado ou de minette, après avoir fait la saga Fifty Shades of Grey.
Alors, oula, la bière qui remonte, là.
Comment ça, la bière?
Je sais pas si c'est une chance d'avoir pu voir ce film. Je commence directement plutôt bien.
C'est plutôt une bénédiction.
écoute...
Maman,
ouais.
T'aurais mieux fait d'aller revoir Bohemian Rhapsody, c'est ça?
I just killed a man. He directed Robin Hood and he got what he deserved.
Oui, bah, depuis qu'on est international, ça change tout ici. Bon.
Oui, on parle beaucoup trop anglais, ça devient n'importe quoi.
N'importe quoi, c'est nickel, ça.
Non, alors Robin, mais effectivement, il y a rien qui était attirant dans ce projet, quoi.
Bah, à partir du moment où j'ai vu Robin, tu vois Robin des Bois qui saute comme ça et qui se met en ralenti, comme ça, à tirer des flèches, je me suis dit, mais non. Qu'est-ce qu'on est ? Il croit encore que 300, c'est à la mode, en fait. C'est ça que je me suis dit.
Écoute, alors, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui va pas dans le film, mais je vais plutôt commencer par ce qui va.
Allons-y. Jamie Foxx.
Écoute, parle un peu pendant que je réfléchis à ce qui okay. va. Ça va ? Non, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va dans ce film. Alors, je vais quand même dire un truc assez sympa pour commencer. C'est que ça se laisse regarder.
C'est que la fille est jolie.
C'est que c'est pas épouvant. Enfin, c'est pas pénible à regarder dans le sens où vraiment tu te dis, je me fais complètement chier. Mais.
Attention.
Et le mais a toute son importance. En fait, c'est une histoire de Robin des Bois qui est revisité. Le gars est riche. Il vit dans un château.
Robin des Bois est riche.
Alors déjà, ton visage s'est décomposé quand j'ai dit ça. Hein,
Robin des Bois est pauvre, il vit dans la forêt avec les autres.
Oui, mais c'est avant qu'il aille dans les bois.
Ah, avant il était riche, ok.
Alors, dans la vraie histoire ou le conte, je ne sais pas. Hein, mais ici, il est riche. Il vit okay. dans un beau petit domaine et tout. Et puis un beau jour, le shérif de Nottingham...
C'est Bruce Wayne, en fait.
Oui, c'est Bruce Wayne.
Okay.
C'est le Bruce Wayne.
C'est un riche qui aide les pauvres. Okay.
Post-antiquité.
D'accord.
Et un beau jour, le shérif de Nottingham lui dit bah, écoute, mon coco, tu vas aller partir aux croisades. Servir, quoi.
Oui.
Et le gars, il va en Israël, hein, Jérusalem, ou en Syrie, je ne sais plus où ils sont exactement.
Oui.
Croisades. Les croisades, ça te dit quelque
oui,
chose
mais
hein
oui,
oui. Oui, mais voilà.
Il y a ça dans Robin des Bois.
Et donc, non, je pense pas.
Ok.
Et puis quand il
donc
revient.
Donc Kingdom of Heaven, il y a, mais il n'y a pas de.
Ouais,
il y a un crossover.
Il revient et son domaine est détruit. Sa compagne n'est plus là. Oui, parce qu'il avait une compagne, j'ai oublié de le dire, qui s'appelle Marianne, hein, évidemment. Et Marianne n'est plus là quand il revient. Et toute la vie à Nottingham a changé. Le shérif de Nottingham est devenu un despote qui a la ville sous son joug et du coup il faut.
Tu sais que je m'endors là déjà.
Mais oui. Eh bien tu vas continuer à m'écouter. Hein.
Putain. Tu veux bien. On s'appelle à 22h et tu me racontes ça quand je suis dans mon lit.
Ça va.
C'est plus simple.
Bref, j'essaie de conclure rapidement. Il faut un sauveur. Et donc, Robin des Bois, a.k.a. Robin de Luxley, va devenir ce sauveur. Mais, de deux façons, il va avoir deux personnalités, en fait. Sa personnalité de lui, riche, homme riche, revenu de la guerre, qui donc joue la posture qu'un riche de cette ville a à ce moment-là. C'est-à-dire, il soutient le shérif de Nottingham, etc., etc. Mais, il va devenir Robin Hood. Hood, c'est donc capuche en français. Hein. L'homme cagoulé, on va dire. L'homme encapuchonné.
Et à ce que j'ai vu sur les photos, ça a l'air d'être une belle pub pour des capuches chez Decathlon. C'est un truc...
Alors, je vais y venir, ne t'inquiète pas.
Okay.
Et donc voilà, hein, il va essayer de sauver Nottingham en usant.
Que grand bien lui fasse.
Ces deux personnalités. Et avec lui, il y a un arabe musulman de surcroît dont le fils a été tué pendant la guerre. En Arabie, hein.
Mais...
Arabie, oui. Enfin, bref, dans le Moyen-Orient.
Là où il y a les croisades.
Je ne sais plus dans quel pays ils sont. Très ils ne sont pas en Israël, en tout cas.
Non.
Donc, ce gars-là, son fils a été tué et Robin a essayé de le sauver. Parce qu'il a été tué par des Anglais.
D'accord.
Robin a essayé de le sauver. Puis Robin a été blessé à un moment, il est rapatrié. Et l'arabe en a profité pour aller se foutre
mais
sur le bateau.
C'est qui? C'est Jamie Foxx.
C'est Jamie Foxx, oui, tout à
un
fait.
Un arabe, ok.
Oui, enfin, ou un Nubien, ou je ne sais quoi. Okay. Voilà, hein, t'as compris l'histoire.
Ok.
Et comme ça, à un moment, il va se dévoiler. Mmh. Il va lui dire, écoute mon coco, t'as essayé de sauver mon fils, donc moi je vais t'aider. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre la ville en main. Boum. T'es là, what okay. the fuck. Bref, et toute l'histoire est comme ça. C'est...
En fait...
Donc déjà, est-ce que l'histoire t'a semblé un tant soit peu
C'est incohérent déjà de un, et c'est pas marrant, enfin c'est chiant. Mais deuxième chose, c'est que ça me fait penser à Batman Begins.
Oui, oui, bah c'est un peu tout
donc
ça.
Il a
ouais,
de l'argent,
ouais.
Il doit partir en exil, il revient, je suppose qu'il s'est formé entre-temps.
Non, il se forme,
encore après.
Si, alors, si, non, il a été formé en un peu, parce qu'il était à la guerre, donc le gars, oui, il a appris les métiers des armes, tu vois.
Oui.
Mais il n'est pas revenu comme Batman.
Ok, bon.
Bon, déjà, l'histoire n'est pas très intéressante.
Non.
Les personnages sont très peu charismatiques. C'est filmé, enfin ça tient pas debout toujours, hein, y a des incohérences assez monstrueuses. C'est filmé avec les pieds, y a des ralentis. Alors tu l'as assez bien fait tout à l'heure, hein, quand tu. Oui, c'est ça. Mais qui tire ses flèches. T'as l'impression que c'est filmé par Michael Bay, quoi, franchement. Ce qui est super drôle, c'est que t'as des explosions dans le film.
Non,
t'as des explosions dans le film. À des moments et dans des circonstances complètement improbables. Quoi.
Le mec qui va aux toilettes et...
C'est presque ça, on n'en est pas loin.
Et il paraît que tous les acteurs jouent vraiment, mais comme des pieds dans ce film. Mais genre, la direction
je vais utiliser une expression que tu adores, c'est over the top. Quoi.
Oui,
c'est complètement ça. Taron Egerton, qui est au demeurant un acteur que j'apprécie.
Qui a l'air sympathique.
Oui. Dans Kingsman, il est génial, j'adore. Dans le reste, je sais pas trop. Il a pas fait grand chose.
Pour l'instant,
depuis.
On a pas encore vu toute sa palette, non.
Jamie Foxx en arabe slash nubien slash je sais pas quoi exactement, c'est ridicule. Jamie Dornan, n'en parlons pas. Voilà.
Il espérait relancer sa carrière.
Marianne, c'est Eve Hewson, la fille de Paul Hewson,
d'accord,
qui est mieux connue sous le nom de Bono.
Ah oui,
chanteur.
C'est ton idole.
De YouTube.
Oui.
Alors non, Bono n'est pas mon idole, mais YouTube est mon groupe préféré.
Ouais,
c'est pas pareil.
Ouais.
Pas pareil, ça va.
Mm-hmm.
Donc voilà, super casting. Alors, les costumes sont dégueulasses. T'as l'impression qu'ils ont été chercher des t-shirts chez H&M. Sans déconner, hein. Il y a des fois, ils sont censés avoir des tuniques un peu moyenâgeuses, un peu. Enfin, tu vois. Entre fin antiquité, début Moyen Âge, époque croisade,
oui.
Et t'as l'impression qu'ils ont été chercher trois tuniques, trois t-shirts dans le H&M qui était à côté, quoi. Donc voilà, les effets spéciaux sont très nus, très moches, les images sont moches, c'est très très sombre. Tu sais pas où était passé le directeur photo, mais il était pas sur le plateau en tout cas. et puis les enjeux de l'histoire sont nuls, sont vains. Donc en fait, c'est Robin Hood avant qu'il devienne Robin Hood. Quoi.
Tu sais qui c'est Otto Bathurst, celui qui a réalisé ce film?
Non.
Honnêtement, je ne sais pas qui c'est.
Je ne me suis pas
plus.
Renseigné sur le monsieur.
Mm-hmm.
Mais je vais te dire tout de suite ce qu'il a fait.
Dis-moi un petit peu, parce que ça m'a l'air quand même d'être...
Ah donc c'est un Anglais déjà. Il a réalisé des épisodes de Peaky Blinders, de Black Mirror, de quoi d'autre. Oui, donc en fait, il a fait que des épisodes de séries et des téléfilms.
Ok, donc en gros, il s'est travaillé avec un petit budget et...
il venait de loin, là, ton bâillement. Hein.
Oui, c'est parce que
t'es saoulé avec cette histoire de Robin Hood.
Ouais, j'ai envie de passer à autre chose.
Eh bien, écoute, nous allons passer à autre chose
dis-moi,
tout de suite.
Dis-moi combien ça vaut.
Eh bien, ça vaut 0 plus 0.
Ça vaut un beau 0 pointé.
Ouais.
Je sens que ça va devenir un film d'avion, ça, pour reprendre mon expression favorite.
Qui sait?
Qui sait? La prochaine fois que j'ai un avion, je vais voir ce film, je vais dire, oh putain. Parlons tout de suite, non pas des news, mais du festival du film méditerranéen. Je crois que c'est même la 18e édition du festival qui a lieu à Bruxelles entre le 30 novembre et le 7 décembre 2018. Donc c'est très bientôt, à partir de ce vendredi, si je ne me trompe pas. C'est un festival toujours très sympathique où il y a plein de films, forcément issus de pays de la Méditerranée. Et on va parler rapidement des films en compétition, en tout cas de ceux dont on peut parler, où on a déjà des informations ou autres. Il y a notamment le film qui s'appelle... tu m'interromps si tu sais quelque chose sur ces films, hein.
Je n'en ai vu aucun. Alors, il y en a que je connais parce qu'ils étaient parfois à Cannes, qui sont passés dans différents festivals et que je connais de nom, voire de réputation, mais je n'en ai vu aucun de ceux qui sont en compétition en tout cas.
D'accord, donc en compétition en tout cas il y a un film qui s'appelle Carmen et Lola, un film espagnol, je ne vais pas prononcer les noms de famille parce que sinon on va rester ici pendant une demi-heure. Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud, ça c'est facile, un film belgo-tunisien proposé. Il y a Her Job, un film grec de Nikos Labo, Red Cow, Screwdriver, Sibel, Smuggling Hendrix et Sofia. Donc c'est tous des films à chaque fois en général, comme je le disais, hein, issus de pays de la Méditerranée. Donc c'est Chypre, Maroc, Turquie, Palestine, Israël, Grèce, Tunisie, Espagne. Donc c'est vraiment des films...
C'est bien, t'as révisé le contour de la Méditerranée, c'est beau.
C'est plutôt pas mal. Donc c'est des films vraiment, en général, avec un message, hein, parfois politique, parfois sur la condition de la femme dans ces pays, ou des choses à améliorer, etc. Il y a souvent quand même un message derrière ce genre de film. Donc on n'est pas dans du divertissement pur et dur, on est souvent dans du film d'auteur, hein, qu'on le dise. Comme ça, vous savez un peu de quoi ça parle concrètement. Tu m'avais dit tantôt qu'il y avait un des films qui était présenté là-bas sur place, qui d'ailleurs, je pense, sort la semaine prochaine.
Il sort le 5 décembre, ça s'appelle Pour vivre heureux.
Oui.
C'est un film qui parle du mariage forcé dans la communauté pakistanaise.
D'accord.
Un peu comme Nos.
Tout à fait.
Je le trouve un peu plus subtil que Nos, quand même. Et en fait, ici, il est question d'un Pakistanais qui est amoureux d'une autre fille, arabe, musulmane aussi, je pense.
De surcroît
J'aime beaucoup dire de surcroît.
Je sais.
Mais en tout cas, d'une autre fille, je ne suis pas sûr qu'elle soit musulmane, en tout cas. Mm-hmm. Parce que son père est joué par Pascal LB, qui lui, forcément, n'est pas musulman.
Non.
Il est juif. Donc peu importe de quelle est sa religion, mais elle n'est pas pakistanaise. Donc ça, dans la communauté pakistanaise, c'est assez problématique.
Tout à fait.
C'est une problématique qui est souvent abordée dans les films au cinéma. On a eu Nos l'an dernier en Belgique, mais il y avait aussi un film américain qui s'appelle The Big Sick, qui traitait de la même chose. Enfin, il ne traitait pas de la même chose, mais ça parlait d'un Pakistanais aux États-Unis. Et donc des différences culturelles forcément. Voilà. Ici, je trouve que c'est super bien traité. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais si vous avez l'occasion de le voir au festival d'ici là, n'hésitez pas. Et il y a un autre film qui passe au festival, et celui-là, je ne sais absolument pas quand il sort, donc je vais vous en parler un petit peu maintenant. Ça s'appelle Tel Aviv on Fire. C'est un film en partie belge. Mm-hmm. Qui parle d'un feuilleton réalisé en Israël, en Palestine plutôt, devrais-je dire, qui traite d'un amour entre un Israélien et une Palestinienne. Oui, et une Palestinienne. En fait, ça parle du scénariste de la... je vais dire de la telenovela, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est un feuilleton à l'eau de rose. Et le gars, il passe tous les jours la frontière entre la Palestine et l'Israël. Et le responsable militaire, enfin le militaire responsable du poste frontière, l'a arrêté une fois. Et à partir du moment où il lui a dit qu'il était scénariste de Tel Aviv on Fire, il a commencé à lui imposer ses vues. Il lui dit. Elle peut pas aller avec le terroriste palestinien, il faut absolument qu'elle soit avec le général israélien, etc. Et donc ça crée plein de décalages et des situations très très drôles entre forcément l'Israélien qui veut influencer le scénario de la série télé. Mm-hmm. C'est vraiment très drôle, j'ai beaucoup ri. Et l'acteur principal a eu le prix du meilleur acteur dans la section Horizonti à la Mostra de Venise. C'est comme la section Un certain regard à Cannes. Oui, c'est la pareil, deuxième quoi. Section. Mm-hmm. C'est pas la compétition, mais c'est celle qui est à côté et qui est aussi assez prestigieuse. Donc voilà, très belle surprise, Tel Aviv on Fire. Et c'est à découvrir au Festival du cinéma méditerranéen. Donc du 30 novembre au 7 décembre.
Tout à fait. Et pour rappel, ça se passe notamment au Botanique. Enfin, au Botanique principalement.
Principalement, oui.
Au cinéma Aventure un petit peu. Et Beaux-Arts et Palace également pour quelques projections. Et d'ailleurs, il y a un film que j'ai très envie de voir, ne fût-ce que pour son titre. À mon âge, je me cache encore pour fumer. Je trouve ça assez sympa comme titre.
Il paraît que c'est très très bien.
Il paraît en plus que c'est bien. Donc allez sur le site qui s'appelle cinemamed.be. Donc cinéma, puis méditerranéen.be. Mais c'est juste M-E-D. Hein. Pas plus compliqué que ça.
Oui, c'est simple.
Et vous avez toute la programmation. On va parler d'un film qui aurait pu être au Festival du film méditerranéen, mais qui ne l'est pas.
Je sais pas.
Ne l'est pas. J'ai rapidement parcouru, je ne l'ai pas vu.
Ok, d'accord.
C'est dommage, parce que c'est...
Bah, il sort avant, forcément.
Il sort une semaine avant, en effet. Il y a même Dogman qui est projeté, donc je vois au Festival ici. Mais en tout cas, celui-ci n'est pas projeté, je pense, dans le cadre du festival, mais il est en salle dès ce mercredi. C'est Capharnaüm. Vous allez sans doute entendre parler dans pas mal de médias, et on en parlait beaucoup à Cannes. C'est le film de Nadine Labaki, qui parle en fait d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Zayn, qui se présente devant le juge pour attaquer ses parents en justice. Pourquoi ? Bah, simplement pour l'avoir mis au monde. Alors forcément, c'est pas que pour ça. Concrètement, cet enfant a vécu dans une famille où les parents n'ont pas bien réfléchi au plan financier d'avoir 6 enfants dans un petit appartement. Voilà. Parce que du coup, il se retrouve avec 6 enfants, pas d'argent et un petit appartement au Liban. Et il se retrouve du coup forcé à devoir marier leur fille avec quelqu'un pour l'argent.
Oui, fille qui a quoi, 12 ans même pas.
Oui, ou 13-14 quoi. Donc vraiment des situations peu désirables. Et Zayn, qui lui a 12 ans et un peu l'aîné de la famille, voit sa sœur de 14 ans partir avec cette famille qui lui est étrangère.
Il n'est pas l'aîné s'il a 12 et qu'il a des sœurs de 14
ans. Non, mais c'est le garçon.
L'homme de la famille.
Voilà, qui oui. fait figure de homme parmi les frères et sœurs, plus âgé, et parce que le père n'est pas vraiment présent et donc c'est un peu lui qui essaie en tout cas de tenir la baraque, puisqu'il est très autonome et un peu rebelle. Et donc forcément, quand il voit sa fille de 14 ans partir pour de l'argent avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qu'elle ne connaît pas non plus, ça le met hors de lui, et il décide du coup de fuguer, tout simplement, de chez lui. Et ce film suit, bah, concrètement, jour par jour, hein, la fugue de ce petit Zayn, qui va se retrouver à mendier, à errer dans des espèces de parcs d'attractions un peu miteux, rencontrer par contre du coup des gens qui eux aussi sont dans la galère, une jeune femme noire qui va l'aider et le recueillir en fait avec son fils. Elle a déjà un fils,
oui, elle a, qui est bébé, hein.
Qui est bébé, un bébé, et donc elle
et
cache
dont Zayn va devoir s'occuper d'ailleurs.
Voilà, il va devoir s'occuper d'un autre bébé du coup que la famille de sa famille de base. Donc voilà, c'est vraiment un film qui va nous plonger dans ce voyage là comme vous l'avez compris, on n'est pas dans une histoire, on va dire, voilà, c'est un petit enfant qui désire ceci, il va tout faire pour l'atteindre. On n'est pas dans ce genre de film-là, on est vraiment dans un film où on va vraiment suivre ce récit, je pourrais dire initiatique, parce que voilà, ça va l'amener à comprendre, en fait. En fait, il va comprendre tout au long du film qu'est-ce que ses parents ont fait pour en arriver là. C'est un peu une des questions qui va se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive jusqu'ici et pourquoi est-ce que c'est moi qui maintenant dois souffrir en allant un peu seul dans mon coin et en m'exilant.
Ouais.
C'est de ça que parle le film, tout simplement. Et c'est un film extrêmement touchant, je trouve, personnellement. Un peu longuet, qu'on se le dise, il prend son temps, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment un film d'auteur avec un grand A. Il n'y a rien de préjuratif, hein. J'aime bien les films d'auteur, c'est pas ça le problème. C'est juste que bah, voilà, c'est un film où il faut le savoir quand on va le voir, qu'on va voir quelque chose qui est touchant, émouvant, dur.
C'est très difficile.
Et voilà. C'est...
Mais tu parles de film qui prend son temps. Je pense que c'est un film qui a besoin de prendre son temps.
Exactement.
En plus.
Oui.
Parce que c'est une histoire qui n'est pas facile du tout. Et pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'on voit vraiment ce que Zayn traverse avec sa fin, ce qu'il vit dans sa famille. Donc forcément, Nadine Labaki passe un peu de temps là-dessus. Et puis elle passe à sa fugue. La fugue, évidemment, là, Zayn prend un rôle beaucoup plus important.
Mm-hmm. Au début, il y a... Oui.
Enfin, dans le sens où... Enfin, c'est le personnage principal du film, donc forcément, il est important. Mais il doit acquérir toute une nouvelle expérience, en fait, parce qu'il va vivre ce qu'un garçon de 12 ans n'est pas censé vivre. Il va vivre seul pendant un moment, et puis après, il va vivre effectivement avec cette dame qui a son bébé. Et même ça, ce ne sera pas facile. Et puis, il y a le procès qui a lieu... On voit un peu du procès tout le temps, c'est pas juste à la fin, si je me souviens bien. On voit des bribes de procès.
Oui, le procès pendant tout le film, parce qu'en effet, Zen, à un moment donné, va commettre un acte qu'il ne peut pas commettre. Faut pas spoiler, parce que voilà, vous savez pas savoir. Mais concrètement, il va faire quelque chose qui pourrait l'envoyer en prison ou autre. Et c'est là qu'il va justement se rebeller contre ses parents et faire appel à une avocate qui va l'aider dans ce dossier-là. Et on va voir en effet ce dossier au fur et à mesure des petits extraits de sa fugue et de sa vie tout au long du film. Ça, c'est clair. Mais on ne sait jamais pourquoi jusqu'à la fin du film, en fait. On sait qu'il a commis quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, du coup, à la fin du film, on le sait. Simplement.
C'était le prix du jury ou le grand prix à Cannes ?
Prix du jury. Ouais. Tout à fait.
Complètement mérité. Parce que ce petit garçon qui s'appelle Zayn Al-Rafea, il est fabuleux. Il a une personnalité formidable, de malade, un charisme, un regard de fou. T'imagines, t'as 10-12 ans, t'as un rôle principal dans un film, mais c'est pas le rôle principal d'un film pour enfants, un truc joli, gentil. C'est un truc super lourd, quoi. Et oui, le gars, il l'assure. C'est vraiment très, très impressionnant ce qu'il fait.
Tu sais, le genre de film où quelqu'un... on dit le film de la maturité, où quand il y a un jeune homme qui passe du statut de post-adolescent ou jeune adulte au statut d'adulte parce qu'il a un fils ou parce que quelqu'un est mort dans sa famille, qu'il doit prendre des responsabilités ou quelque chose comme ça. Là, ici, c'est pareil, sauf que c'est avec un garçon de 12 ans au Liban. Donc, vous voyez vraiment bien le concept. On n'est clairement pas dans les problèmes du premier monde, comme on dit. Et c'est pour ça que c'est très touchant et extrêmement juste et authentique. Donc, sans être à fleur de peau, enfin à l'eau de rose, ou tu sais, les trucs un peu too much ou dénonciateur. Enfin, vraiment, je trouvais ça très sensible de la part de Nadine Labaki. Pour moi, c'était un de mes coups de cœur lors de ma venue à Cannes. Et donc, pour moi, c'est un 4 étoiles pour Capernaum.
Ah oui, carrément.
Carrément. Pourquoi ce ne serait pas un 4 étoiles pour toi ? Le débat étant à t'enclencher.
Non. Écoute, je peux te suivre sur un 4 étoiles. Allez, hop.
Voilà. On le répète, c'est pas le film le plus accessible. C'est certainement pas le film le plus accessible. Mais c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Et je pense honnêtement que c'est tout à fait le genre de film que tu pourrais voir en classe. Tu vois, le genre de film que ta prof te montre pour analyser des problèmes comme ça. C'est toujours sympathique, ce genre de film. Ça prend 2-3 heures de cours, c'est très bien. On va parler d'un dernier film, mais pas n'importe lequel. Hein. On aurait pu en parler en premier. D'ailleurs, c'est le nouveau film de Frédéric Tellier qui avait fait l'affaire SK1, qui était pas mal un bon film, hein, un espèce de polar à l'américaine, mais français.
Je ne l'avais pas vu.
Voilà, c'est Quai des Orfèvres, l'affaire de Guy Georges dans Paris, grosse enquête, etc. Donc c'était vraiment un peu le truc un peu où il fumait dans les couloirs, tu vois, le genre de film.
Je vois bien.
Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien de spécial, il faut que je rentre chez ma femme. Et puis ils vont bouffer un truc et boire du vin rouge à midi. Voilà, exactement. et ben maintenant, c'est Sauver ou Périr. On change de registre. On est toujours dans un monde des défenseurs, entre guillemets, des gardiens de la paix en France. Puisqu'avant, on avait les flics. Maintenant, on a les sapeurs-pompiers. Sauf que c'est dans le monde moderne. Et Franck, qui est donc interprété par Pierre Ninet. Concrètement, Franck, c'est un gars qui sauve des gens. Il vit dans la caserne. En gros, c'est sa life. On va dire ça comme ça. Et il se donne à 300% dans son métier. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Et lors d'une intervention sur un incendie, il veut faire un peu le héros. Il veut se sacrifier pour sauver les autres. Hein, c'est presque ça. Et il va se retrouver, finalement, complètement brûlé. Et il va devoir être pris en charge dans un centre de traitement. Et voilà, il a un visage qui est complètement fondu. Il va devoir apprendre à vivre et accepter, du coup, dans ce cas-ci, d'être sauvé à son tour. Entre guillemets, c'est un peu ça, le pitch du film, tout simplement.
C'est complètement ça.
C'est complètement ça. Alors, dans ce film-ci, c'est un film un peu à la... Attention, Place Beyond the Pines, puisque le film est coupé en deux parties.
Oui, enfin pas à la de pas la moitié Pines, hein.
Pile, mais concrètement.
Non, mais c'est
pas... non, parce qu'au non, milieu du pas, film, il y a un pas... changement de personnage. Ici, c'est presque le cas puisque le personnage change totalement d'apparence, de personnalité
également. Mais on n'est pas dans des changements de Place Beyond the Pines, qui était complètement dans autre chose.
Disons qu'il n'y a pas Bradley Cooper qui arrive à la deuxième moitié du film, voilà. Et Ryan Gosling qui va se changer.
Et puis les mômes.
Quel film?
Parce qu'il y avait trois personnages.
Et après,
principaux.
Il y a trois, oui, c'est vrai. Après, les gosses. Après. Putain, ouais. C'est vrai que c'était dingue ce film. Non, ici, c'est Pierre Niney avant, Pierre Niney après. Quoi, ce sont très clairs.
Voilà.
Pas le même homme.
Non.
Pas le même problème, pas le même personnage.
J'étais pas le même homme après avoir vu le film non plus.
C'est vrai?
J'étais en train de me dire, mais putain, qu'est-ce qu'on nous propose au cinéma? Ce serait bien d'avoir plus de meilleurs films quand même.
T'as pas aimé?
Non.
Ah, parce que partout, j'ai encore lu première là récemment. Ouais, 4 étoiles, c'est formidable. Frédéric Tellier a enfin réussi à saisir les sentiments. Parce qu'avant, son film précédent, c'est ça qui manquait un peu dans l'affaire SK1, c'est que le flic avait des problèmes personnels. Et c'est vrai que les problèmes personnels du film, enfin, du flic, on s'en foutait un peu, on voulait juste l'enquête. Tu sais, il voulait faire un peu un truc à la Seven où le flic lui-même a des problèmes, tu vois.
Oui.
Sauf que ça marchait pas. Et donc là, apparemment, il a réussi à jouer avec les problèmes du personnage, en tout cas, ce que j'ai pu lire.
Bah écoute, ça ne m'a...
Ils ont été payés.
Non, alors en fait, le début est hyper laborieux et t'en as un peu rien à foutre des personnages, je trouve. T'as du mal à être vraiment en empathie pour eux, pour Franck. Au début, il mène sa carrière, il essaye... Enfin, il est pompier, mais il passe sa formation pour être pompier afin de pouvoir affronter le feu, parce que tous les pompiers ne peuvent pas... aller dans des incendies. En fait, c'est hyper... Enfin, c'est... Tu suis le gars, il arrive à son incendie, il se fait brûler au 14 millième degré, il fait le héros, et puis c'est toute sa reconvalescence, quoi. Sa reconvalescence, elle est chiante pour, on va dire, les deux tiers du temps. Et il y a la fin... qui est sympa, où là, c'est la partie où il est sorti de l'hôpital et il essaie de se reconstruire, de reconstruire sa vie de famille aussi, qui en a pâti pendant deux ans. Oui. Deux ans entre le moment où il était brûlé et le moment où vraiment il est apte à reprendre un peu une vie, donc c'est long. Et donc, je trouve que vraiment, toute cette période-là, donc, entre l'accident... Et le moment où il sort de l'hôpital, c'est chiant, il se passe rien, c'est pas très intéressant.
C'est long,
t'as
Pierre
Niney qui est en mode acteur studio. C'est un peu pénible, quoi. Et par contre, la dernière partie est, je trouve, la plus réussie du film, et c'est dommage qu'il faille se taper tout ce qu'il y a avant pour en arriver là, quoi.
En fait, le film aurait été plus intéressant, ce que tu dis, il aurait été plus intéressant si on se concentrait sur sa nouvelle vie à la maison, une fois qu'il rentre, en fait. Parce qu'il est tellement occupé par son travail dans la première partie du film qu'il oublie peut-être sa femme et ses enfants, un petit peu. Et donc imaginons qu'après, il est forcé de rentrer chez lui et ne peut plus travailler, du coup, parce qu'il est complètement... Enfin voilà,
oui,
il
alors,
doit se remettre.
Rentrer chez lui, ça met du temps avant qu'il rentre chez lui. Ouais. Parce qu'il a atteint un point que je pense qu'il reste plus d'un an à l'hôpital, quoi. Donc la vie de famille, c'est compliqué.
D'accord.
Effectivement, quand il peut vraiment en sortir, c'est encore plus compliqué parce que... Ben, parce qu'il n'a pas récupéré toutes ses capacités, il est défiguré, donc sa vie de famille, elle va vite exploser.
Ouais.
Et par contre, il n'y a pas moyen, enfin, il y avait pas moyen de faire un film que sur l'après, parce que c'est trop inconsistant, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre sur lequel baser cette histoire. Donc ça ne pouvait pas être juste cette fin, mais je trouve que c'est la fin qui est la plus intéressante, où il va essayer de reconquérir sa femme, de retrouver ses enfants, etc. Et de faire son deuil aussi, parce que être pompier, c'était son rêve. Et il ne peut plus. Parce que physiquement, clairement, c'est plus possible. Hein.
Donc, clairement.
Donc voilà, moi, je trouve que c'est dommage qu'il y ait toute cette première partie, ces deux premières parties, on va dire. Je ne sais plus combien de temps dure le film, mais.
Deux heures,
si, ouais, un peu moins de deux heures. Mm-hmm. On va dire qu'il y a une heure et demie chiante. Et. 20-25 minutes qui sont bien, quoi. J'étais très très déçu. Je m'attendais à quelque chose de bien, vraiment. J'y allais avec grand optimisme.
Beaucoup d'espoir. Parce que
j'aime quand même bien Pierre Niney. Je me dis qu'un film sur les pompiers, ça doit pas être foncièrement mauvais. Mais c'était loin d'être mémorable, malheureusement. Je suis. Oui, j'étais vraiment très circonspect en sortant.
Et est-ce que Anaïs de Moustier parvient à tenir tête à Pianiné en mode acteur studio ou c'est un peu lui la star et c'est tout quoi.
Elle n'a pas besoin de ça, elle est assez naturelle et elle l'est toujours autant ici. Donc, non, je suis assez fan d'Anaïs de Moustier. Je trouve qu'elle fait du bon boulot. Vraiment, et j'ai pas grand chose à redire de son côté. Et Pierre-Niné, même si je suis pas toujours fan de ce qu'il fait dans le film, dans l'absolu, il est quand même plutôt pas mal. C'est juste que, forcément, quand ce sont des rôles où le personnage est atteint à un tel point que mec, l'acteur doit forcément en faire beaucoup, aussi un peu exagéré parfois. Mais bon, voilà quoi. Moi, perso, c'est pas passé. Je pense qu'il y en a qui vont aimer. Hein.
Très honnêtement, j'ai Pianiné, à part quand il faisait Yves Saint Laurent, ne m'a jamais pour l'instant vraiment ébloui.
Il m'a jamais ébloui non plus. Mais je l'ai jamais vu. Je me suis dit. C'est pas arrivé que je me dis vraiment, là, il y a Pianiné. C'est pas un bon acteur.
C'est un peu le type.
On en a fait beaucoup avec lui.
Mm-hmm.
Et je pense que ça peut lui, il peut en pâtir.
Bon, c'est la belle gueule du cinéma français actuel, le jeune, un peu montant, peu le Ryan Gosling français, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils essaient de le présenter, quoi.
Ouais, je sais pas si c'est...
Ils essayent, vois.
Oui, ils essaient de le vendre un peu le beau gosse, etc. Je trouve qu'il était vraiment très bien dans La Promesse de l'Aube, de Romain Gary. Adapté. De Romain Gary.
Romain Gary, back derrière la caméra.
Mais ici, là, non, pas trop. Ça m'a pas convaincu du tout.
Bon, qu'est-ce qu'on donne à Sauvé Opéré pour clôturer cette semaine ?
Une étoile. Une étoile pour la fin.
Une étoile pour la fin. Sorry, Pierre. On termine cet épisode, comme d'habitude, par un petit aperçu des films qui sortent cette semaine au cinéma. Il y en a beaucoup. I Still See You, c'est un film américain, un thriller. Ça me dit absolument rien, avec Bella Thorne, Richard Hamon. Voilà.
Il y a Dermot Mulroney. J'aime beaucoup cet acteur.
Voilà. On ne sait pas vous en dire plus. Liana, un documentaire film d'animation. On ne sait pas vous en dire plus non plus. Capharnaüm, 4 étoiles.
Le film de la semaine.
Le film de la semaine, voilà. Disons-le clairement. Pas le plus accessible, mais le film de la semaine. Lola et ses frères, ça c'est un peu plus accessible pour le coup. Et vraiment un film qui vaut la peine. Donc si vous aimez les comédies dramédies françaises, faites-vous plaisir.
Oh non.
Les comédies dramatiques françaises, excusez-moi.
Il a dit le mot dramédie.
J'ai failli ne pas le faire tout au long de l'épisode.
Oh là là.
Les comédies dramatiques françaises, avec le petit cœur de Jean-Paul Rouve, c'est parfait pour vous.
Et moi j'ai donné 3 étoiles.
C'était 3 étoiles.
Voilà.
Sauver ou périr, une étoile, c'est le truc un peu plan-plan, hein, disons-le clairement.
Oui.
Un avant, un après. Sauver ou périr, on a compris.
Avec Vincent Rottier en plus.
Ah oui, c'est vrai.
Qui fait un peu du Vincent Rottier.
Donc voilà. Il est bon.
Donc il est bon.
Ernest et Célestine en hiver, film d'animation.
C'est très mignon. Mais ça dure 40 minutes. Hein,
40 minutes.
Ouais.
C'est le même prix que les autres films ?
En général, non. Quand c'est comme ça.
T'imagines ? Une valse dans les allées, un film de Thomas Tuber, allemand. Un film allemand.
Avec l'actrice de Tony Erdmann.
Quoi, c'est Sandra Hüller ou quoi ?
Je pense. Okay.
Robin Hood.
Enfin oui.
Le remake non nécessaire de Robin des Bois.
C'est pas un remake, c'est une...
C'est une taupe.
Une nouvelle adaptation.
Aucune étoile. Widows, donc les veuves de Steve McQueen 2. J'aime beaucoup, à chaque fois ils mettent un 2 entre parenthèses son nom.
Steve McQueen 2, j'ai cru que tu avais donné 2 étoiles, j'étais là.
Non, c'est 3 étoiles. 3 étoiles.
3 étoiles.
3 étoiles, un peu une espèce de thriller, film de braquage, film de casse avec des femmes, etc. Avec une touche de Steve McQueen. C'est une belle option aussi pour cette semaine au cinéma, disons-le clairement.
Une très belle option, oui.
Et puis un film qu'on n'a pas vu, Le Grinch, version animée cette fois-ci. Hein. On n'est plus dans le truc avec Jim Carrey, où c'est Benedict Cumberbatch qui fait la voix, pardon, du Grinch. Donc voilà, mais ça reste l'histoire du Grinch. Hein. On ne réinvente pas la roue. C'était tout pour cette semaine dans Cinécast.
Oui.
On vous remercie d'avoir écouté. On vous remercie également de vous être abonné éventuellement sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, sur les plateformes de votre choix, et de laisser un petit commentaire ou des étoiles. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine.
Bah oui, parce qu'il y a encore énormément de sorties.
Tu fais la bande-annonce.
4, 8...
12
boum.
On va parler la semaine prochaine de...
12 films. Alors, je sais pas de quoi exactement on va parler, parce que j'en ai vu beaucoup en plus.
Oui,
de la liste.
On n'a pas encore fini le.
Mais je pense déjà pouvoir affirmer à peu près avec certitude qu'on va vous parler de Astérix, le secret de la potion magique.
Oui.
De Mortal Engines.
Produit par Peter Jackson. Avec ça.
De Pour Vivre Heureux, et sans doute un ou deux. Ah, bah de Pupi.
Bah de 22 juillet, Utoya.
De Pupi.
Aussi.
Oui, mais tu l'as vu. Pupi.
J'ai vu Pupi.
Je peux te parler du Utoya. On peut parler de 5 ou 6 films si on veut. Hein.
À mon avis, on fera un peu comme cette semaine, un peu un programme à rallonge, puisque, il faut le dire, les news cinéma, ça se fait un peu disette ces temps-ci. Hein. Donc, ouais. Donc autant en profiter et parler de films tant qu'on les a vus.
Oui.
D'ici là,
surtout quand il y a de bonnes choses.
Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour plus de films et toujours une année ciné bien remplie.
Portez-vous bien.
Des bisous.
Des bisous.